Réplique, Régis Debray, un itinéraire avec Régis Debray. Dans son dernier livre, D'un siècle l'autre, Régis Debray relate son parcours sans complaisance ni fausse modestie. Élève brillant au lycée Janson de Sailly, lauréat du concours général de philosophie, reçu cacique à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, il était voué à une grande carrière universitaire. Un tapis rouge était déroulé devant ses pieds. Mais voilà, jeune à l'avenir assuré, il a bifurqué vers la lutte, semée d'embûches et de dangers pour un avenir radieux. Il a choisi la voie de l'engagement, et pas l'engagement pépère des manifs et des pétitions, non, du lourd. Abandonnant le confort de l'Europe aux anciens parapets, il est allé là où la révolution avait lieu. Et il a même pris les armes à ses risques et périls. Qu'est-ce qui explique ce choix originel? D'où vous est venu le désir et la force de larguer les amarres pour connaître l'épreuve du feu, Régis Debray?
Vous savez, la question du sens de ce qu'on fait, elle ne se pose qu'après qu'on l'a fait. Et en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question que vous me posez au moment où je tentais d'y répondre. Alors, c'est vrai que dans ce livre, si vous voulez, je ne m'attache pas tellement à ce que j'ai pu faire, parce qu'au fond, j'ai pas fait grand-chose d'intéressant. Mais je m'attache à raccorder mon itinéraire personnel à une histoire collective. Parce qu'au fond, ce qui nous arrive, ça n'arrive qu'à nous. Alors que ce que nous pensons, on n'est jamais seul à le penser, si vous voulez. Et donc j'ai essayé d'articuler, disons, un certain nombre d'actes avec un certain nombre de visions du monde, parce que ces visions du monde, ces représentations, au fond, concernent beaucoup plus de personnes que moi-même. Elles concernent peut-être toute une génération. Alors, pourquoi bifurquer? D'abord parce que je m'ennuyais à l'école, hein, c'est-à-dire que l'explication de texte, le commentaire des classiques, ça me semblait un peu statique, un peu morose. Et puis surtout, j'ai toujours eu l'idée qu'un homme est ce qu'il fait. Et Marx ne disait rien d'autre lorsqu'il l'a... Dans ses thèses sur Feuerbach, vous connaissez Alain la fameuse phrase « Il ne s'agit plus d'interpréter le monde, mais de le transformer ». Et donc, d'aller là où les choses se passent. Et elles se passaient dans le Sud à cette époque, et d'ailleurs Victor Hugo a dit « La destinée des hommes est dans le Sud ». Mais j'aimerais ajouter un point, c'est que je suis de la génération 40, c'est-à-dire pas au sens service militaire, je l'ai fait après le service. Mais 40, c'est un stigmate pour moi. J'avais le sentiment de devoir expier une faute, une flétrissure nationale qui a été la débandade de 40. Alors, je n'avais peut-être pas encore compris que la France est morte en 1940. Ça, c'est Daniel Cordier qui me l'a dit. Ensuite.
Il est allé jusque-là.
Il est allé jusque-là. Entendons-nous. Quand je dis la France, je dis la puissance mondiale.
Ah, la puissance mondiale.
Qui est un sujet de l'histoire. Et qui est la mère ou la grand-mère, disons, des arts, des armes et des lettres.
Alors, mais quand même, avec De Gaulle, la France est relevée de cette flétrissure. On peut le soutenir, cela, Régis Debray.
On doit le soutenir, mais il y a des résurrections. Quand on est chrétien, on croit dans la résurrection. Mais précisément, je dis chrétien et le besoin d'expier, le besoin de racheter quelque chose qui était pour moi une honte, qui était la débâcle, et puis il y avait aussi, excusez-moi, la guerre d'Algérie, c'est-à-dire la torture. Donc tout ça, si vous voulez, fait que, on a envie en quelque sorte de s'accrocher à une sorte d'épopée qui avait lieu ou qu'on croyait avoir lieu, qui était en gros celle du tiers-monde, de Bandung, de Frantz Fanon, d'Aimé Césaire, d'Albert Mémy. Donc, à l'Est, c'était foutu. À l'Ouest, c'était un empire. Au Nord, il se passait rien. Il n'y avait plus que le Sud, si j'ose dire.
Il n'y avait plus que le Sud. Alors, j'ai moi-même, en effet, essayé de comprendre à la fois ce qu'avait de singulier et de symptomatique votre parcours et votre choix. Et j'en ai trouvé une clé possible, et cela va vous étonner peut-être, dans la lecture d'un texte d'Emmanuel Lévinas. Et voici pourquoi. Il écrit ceci. L'ère de la philosophie, c'est l'ère où la philosophie se manifeste sur les lèvres des philosophes. Vous alliez devenir peut-être aussi philosophe en ce sens. Tout vous y poussait. Mais quelque chose s'est passé. La fin de la philosophie, c'est-à-dire, dit Lévinas, pas du tout le retour à l'époque où elle n'avait pas commencé, où on pouvait ne pas philosopher. La fin de la philosophie, c'est le commencement d'une époque où tout est philosophie, parce que la philosophie ne se révèle pas à travers les philosophes. Les concepts sont descendus dans la rue, les arguments sont devenus événements et les conflits dialectiques des guerres. Et d'une certaine manière, c'est cette fin paradoxale de la philosophie, où tout devenait philosophie, que votre itinéraire incarne et consacre. C'est-à-dire, la philosophie, vous êtes allé la chercher là où elle était, dans la lutte, le moment où les philosophes, les écrivains, les intellectuels pouvaient incarner la conscience du monde était clos, puisque, quand bien même ils participaient aux luttes par leurs mots, par leurs œuvres, par leurs interventions, eh bien, c'était toujours une bataille métaphorique. Ils tiraient à blanc. Et il y avait aussi cette mauvaise conscience, c'est-à-dire que on est passé de l'intellectuelle conscience du monde à l'intellectuel comme incarnation de la mauvaise conscience. Sartre en est l'exemple privilégié. Alors, votre honte, votre mauvaise conscience, s'est ancrée effectivement dans un moment historique particulier, 1940, et vous le dites très bien, mais d'un autre côté, cette trajectoire est extrêmement révélatrice de ce moment où les philosophes n'incarnent plus la philosophie, mais courent après elle, après le prolétariat, après le lieu où précisément elle se déroule. Hegel dit « l'histoire est le théâtre de la raison », mais l'histoire, c'est-à-dire, traduisent les marxistes, le conflit général, le conflit mondial, entre les exploités et les exploiteurs. Et vous avez voulu être partie prenante de ce conflit sans vous contenter de cette demi-mesure que pouvait être justement la manifestation, l'intervention ou le seul travail de l'œuvre. Il me semble qu'il y a quelque chose de cela dans votre trajectoire, Régis Debray.
Bah écoutez, vous avez tout dit, Alain, moi, que puis-je ajouter? Sinon que oui, je suis philosophe, disons que c'est la seule qualification professionnelle dont je sois à peu près sûr, ayant eu tous les titres correspondants. Et vous avez raison, hegélien j'étais, et je reste d'ailleurs, avec l'idée que la théorie ne se réalise qu'en pratique. Philosophie de la praxis, disait Gramsci, et c'est pourquoi Lénine m'a toujours plus intéressé que Marx. Alors, c'est pas bien de dire ça, parce que Marx est quelqu'un de très bien, et Lénine, c'est un vilain monsieur. Mais Lénine pose la question « que faire ?» Et moi, c'était ma question essentielle. Ouais. Non pas être, c'est-à-dire, je ne vais pas chez le psychanalyste, non pas avoir, c'est-à-dire, je n'ai pas d'action en bourse, mais faire. Le faire, c'est la vérité de l'être, pour moi. Donc, cela implique, effectivement, un souci d'efficacité. Je ne dis pas de rendement, mais en tout cas, il faut faire bouger quelque chose. Et il me semblait que l'action intellectuelle ne suffisait pas. Après, je m'occuperais du point de savoir qu'est-ce qu'un intellectuel peut changer.
Oui, oui.
Mais il y avait au départ D'abord, l'idée de savoir comment ça se passe, une révolution. Hein, bon. C'est-à-dire d'aller aux choses mêmes. Et puis, l'idée aussi de rejoindre une communauté, d'être ensemble. Je sais que il faut être. On ne pense que seul, mais on ne fait qu'ensemble. Alors, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est comment oui. on passe de la pensée solitaire à l'action collective.
À l'action collective. Et puis, vous parliez d'expiation. Il y avait peut-être aussi l'idée, quand même très répandue. Et vous êtes allé jusqu'au bout. Vous n'avez ni transigé ni triché. D'expier l'appartenance à la classe bourgeoise, à la classe des privilégiés, sans aucun doute. Mais donc, vous êtes allé très loin, puisque vous êtes allé à Cuba, mais pas seulement à Cuba, où la révolution avait eu lieu, vous avez voulu la faire, vous avez participé à la guérilla en Bolivie, vous avez fait quelques années de prison, en vous réveillant chaque matin et à vous demander si vous n'alliez pas être exécuté, vous avez été libéré. Quelle leçon tirez-vous de cette expérience? Qu'avez-vous appris qui ne figurait pas justement dans votre idée initiale du faire, Régis Debray?
Bah, comme vous dites, je l'ai appris, ça demande du temps, et quand on est condamné à 30 ans de prison, on a le temps de réfléchir, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que l'enfermement, ça ouvre l'esprit. Que faire en un gîte à moins que l'on ne songe, n'est-ce pas? Donc j'ai eu le temps, effectivement, de réfléchir sur ce que j'avais fait après coup. Qu'est-ce que j'en ai retenu? C'est que on n'est pas de nulle part. C'est que, au fond, je n'avais rien à faire là-bas. Et en quelque sorte, c'est pourquoi je le dis, ce sont les Indiens qui m'ont fait français, si vous voulez, parce qu'ils me regardaient comme un étranger, comme un intrus, ils avaient tout à fait raison. Autrement dit, j'ai découvert, d'abord, que l'accès à soi passe toujours par un autre, et qu'il faut se heurter à des gens qui ne nous ressemblent pas pour savoir à quoi on ressemble soi-même, c'est en quoi l'exil a toujours été une formidable fabrique de patriotes. Hein, bon. Et puis... je me suis aussi aperçu qu'on peut pas faire l'histoire sans faire d'abord de la géographie. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la chambre des cartes, n'est-ce pas? Et c'est là où je me suis, disons, débarrassé d'un certain nombre d'illusions en découvrant que la révolution n'est pas une patrie. Notez que la démocratie non plus. J'ai découvert donc que vouloir échapper à la géographie par l'histoire, c'était au fond le vœu secret du progressisme, en quelque sorte, n'est-ce pas? Et ayant découvert que, oui, que la France était une petite nation, au sens où votre ami Milan Kundera l'entend, c'est-à-dire une nation qui sait qu'elle peut mourir, ben, je me suis dit que ça valait la peine de revenir en France, puisque j'ai eu cette chance, et de m'atteler à ce qui m'a paru être peut-être encore une vocation française.
C'est vrai, vous étiez un homme des Lumières, et de leur continuation, de leur radicalisation hegélienne et marxiste, et vous avez découvert autre chose que l'histoire, la géographie, et vous le dites encore dans un texte que j'aime beaucoup, et notamment, je voudrais lire ces quelques phrases auxquelles il m'arrive souvent de revenir. Ce texte est une conférence que vous avez donnée à la Fondation Marc Bloch. La particularité, le glaive et le code, donc, la particularité nationale est à compter au nombre des infortunes providentielles qui empêchent les hommes de se prendre pour des dieux. Dieu est cause de soi, il ne tient que de lui-même. Il n'a de dette envers personne, et ce qu'il sait, il ne l'a pas appris. Non, nous sommes contraints, nous produisons du neuf, oui, mais à partir de ce que nous avons reçu. Nous sommes incapables de nous auto-fonder, de nous auto-organiser, nous auto- engendrer. Il faut bien être quelque part, entendre telle ou telle langue dans son berceau, anyhow, somehow. Et cela s'appelle la finitude, dont notre langue maternelle est une manifestation parmi d'autres. Donc vous étiez, si j'ose dire, parti robespierriste, et en quelque sorte vous êtes revenu burkéen. Enfin, en tout cas,
non.
Doté un peu, non. Doté d'un certain, d'une certaine sensibilité romantique au sens philosophique du terme. Donc, je retire Burke pour ne pas vous affoler ni vos nombreux admirateurs, mais ce que je pense, c'est que effectivement, vous, avec la géographie, avec la particularité, vous pensez quelque chose à quoi vous n'étiez pas préparé à penser.
C'est vrai.
Régis Debray.
C'est vrai. En tant qu'internationaliste, le mot est banal, je croyais qu'il pouvait y avoir des communions sans territoire. Des communions dans l'abstrait, je dirais des fraternités dans l'universel. Et j'ai découvert au fond que nous avons tous une appartenance. En ce sens, je dis que la nation, c'est pour moi un motif d'humilité et pas d'orgueil. C'est pour moi, au fond, l'idée, d'abord qu'on doit beaucoup à ceux qui étaient là avant nous, l'idée qu'on n'est pas partout chez soi, ça c'est très important, n'est-ce pas ? Je dis pas qu'on est assigné à résidence dans un lieu, mais je dis que toujours on porte un lieu avec soi. Et que celui qui n'a pas de lieu dans son cœur ou dans sa tête devient anywhere, comme on dit aujourd'hui.
Ouais, et vous retrouvez somewhere.
Et moi, je m'assume comme somewhere. Ça ne veut pas dire que je me brouille avec le reste du monde. Au contraire, plus je voyage, plus je suis français, si vous voulez. Donc j'adore faire
le tour. Voyager.
Donc j'adore faire le tour du monde et je l'ai fait plusieurs fois. Donc, je sais que les progressistes ont toujours eu du mal avec ça. Et j'en ai beaucoup parlé avec mes amis trotskistes, parce que j'aime beaucoup Trotsky. Mais, tout de même, c'est un homme qui a laissé à Staline le soin de mettre l'énergie patriotique dans l'appareil du parti. Alors, si vous avez la patrie pour vous, vous êtes gagnant. Si vous l'avez pas, vous êtes un témoin, mais pas un acteur.
Bon. Staline a eu la patrie pour lui pendant ce qu'il a appelé, ce qu'on continue d'appeler en Russie, la Grande Guerre patriotique.
C'est en quoi il reste une figure dans le légendaire russe.
Dans le légendaire russe, oui. Mais alors, vous êtes revenu dans votre ici. Et donc, vous êtes redevenu un intellectuel à votre retour. Et d'ailleurs, c'est la France qui a... C'est en France que s'est forgé le nom, la qualité d'intellectuel. Et en même temps, vous continuez à refuser d'endosser ce titre. Sans doute pas avec les mêmes raisons que celles qui vous ont poussé à aller vers le Sud. Pas en pensant qu'effectivement la philosophie se réalisait forcément dans la lutte entre deux forces. Vous avez compris aussi que la politique c'était peut-être plus compliqué que ça. C'était pas le deux, comme le prétend encore Badiou, c'était peut-être la pluralité humaine, mais peu importe, intellectuel, non. Continuez-vous à dire. Pourquoi cette obstination, Régis Debray, à n'être pas ce que vous êtes?
Non, j'ai essayé de l'être. Hein. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être un intellectuel. Ça n'a pas marché. Bon, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous entendez par ce mot?
Moi, oui.
J'entends par ce mot un homme de savoir ou d'études qui veut rendre publique son opinion privée sur le cours des choses et qui donc devient un homme public, qui se mêle des affaires publiques. Pour moi, un intellectuel est un homme d'influence. C'est un homme qui a un projet d'influence, qui veut, peser sur les conjonctures en pesant sur les esprits. Bon. Et donc, c'est celui qui, en quelque sorte, un homme d'action au deuxième degré. Et puis, c'est pas du tout vilain, hein, ça. D'ailleurs, c'est ce que Chateaubriand avait commencé de faire, hein, en joignant un projet littéraire et un projet politique. Mais je trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui où nous avons quitté la société littéraire, aujourd'hui où, au fond, pour peser, il faut être visible. Dans la vidéosphère, il y a une logistique nouvelle qui fait que si vous n'avez pas une image, si vous n'êtes pas une image, vous comptez pour peu de choses. Donc là, il faut s'astreindre à, disons, à une médiasphère qui requiert des qualités que je n'ai pas. Et puis il y a une autre question, moi, qui m'ennuie dans la condition intellectuelle. C'est la bagarre. C'est-à-dire, c'est le conflit permanent entre les uns et les autres. C'est l'injure, le crédit, le discrédit, le non-nisme. Alors, est-ce que vous êtes nationaliste, souverainiste, sioniste, anti-sioniste, etc. Je trouve ça fatigant. Si vous voulez, je suis un peu lâche, peut-être, mais cette bagarre permanente, ça m'ennuie. Alors, entre écrivains, il y a de l'indifférence. Hein. Entre écrivains, vous pouvez surveiller de près l'autre, mais vous n'êtes pas en conflit. Un intellectuel est en conflit. Deuxièmement, un intellectuel est esclave du moment. Il a les mains liées par l'événement. Et l'événement, c'est son gouvernement. Ben moi, je dis merde, il y a des moments où l'événement, je m'en fous. Je pars en vacances, je fais autre chose.
Oui, mais... Je vais vous donner deux citations opposées. Une de Maurice Blanchot, dans un texte d'abord publié dans Le Débat. C'est quand même, il faut y penser, Blanchot a publié un article magnifique, accueilli par Pierre Nora dans Le Débat. C'est les intellectuels français. C'est un article absolument splendide. Et il dit ceci... Depuis qu'ils portent ce nom, les intellectuels n'ont rien fait d'autre que de cesser momentanément d'être ce qu'ils étaient, écrivains, savants, artistes, pour répondre à des exigences morales à la fois obscures et impérieuses, parce qu'elles étaient de justice et de liberté. Bon, ça c'est évidemment l'affaire Dreyfus. Et puis il y a Brunetière, anti-Dreyfusard, peu importe. Parce que en même temps, il dit quelque chose qui compte et qui résonne aujourd'hui. Les intellectuels ne font que déraisonner sur les choses de leur incompétence. Ça touche juste. Mais d'un autre côté, je veux dire, il y a un héritage, justement, de l'intellectuel Dreyfusard, qu'on peut bêtement dilapider. Mais pourquoi l'abandonner complètement et livrer absolument la sphère publique aux hommes politiques, aux journalistes et aux experts. Car c'est eux, si les intellectuels passent à autre chose, qui occupent toute la place. Ils ont leur place. Mais je ne crois pas que ça doive être toute la place, Régis Debray.
Bah écoutez, vous allez me convaincre de redevenir un intellectuel. Mais tout de même, j'essaierai de ne pas le faire. Pourquoi ? Un, parce que la polémique perpétuelle, ça me fatigue. Et deuxièmement, parce que pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui prend des risques. Pour moi, l'image de l'intellectuel, c'est un homme seul contre un pouvoir qui peut le mettre en prison, éventuellement qui peut le tuer. C'est pourquoi je dis oui, il y a eu des intellectuels en Union soviétique, il y en a en Chine, il y en a en Islam. En France, il me semble que c'est devenu plutôt une posture, si vous voulez, qu'une mission, proprement dit. Le côté matuvu de l'intellectuel, puisque le matuvu remplace le matulu aujourd'hui. Bon, je trouve ça un peu fastidieux. Mais vous avez raison, il y a des moments où il faut ramener l'universel dans le particulier, c'est certain. Et l'héritage Dreyfus, oui, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire que Zola a été assassiné.
Oui, mais enfin, on ne peut pas payer tout ce qu'on fait de la mort pour que ce qu'on fait ait un sens.
Je suis d'accord, et ce n'est pas parce qu'on meurt pour une idée que l'idée est juste.
Voilà.
Nous sommes d'accord.
Et en plus, vous avez commis avec d'autres un acte intellectuel... qui est resté dans les mémoires...
Avec vous, mon cher.
Avec moi, justement. C'était 1989. C'était Le Nouvel Observateur de Jean Daniel. Un manifeste au professeur pour qu'il ne capitule pas. L'affaire de Creil, des jeunes filles voilées exclues de la classe parce qu'elles veulent faire le voile, y porter le voile. Donc ce n'est pas elle qui était exclue, c'était le voile, qu'elle avait le droit d'ailleurs de porter dans la cour. Nous avons pensé que c'était une affaire importante et pas mineure. Et donc nous avons signé ce texte, « Prof, ne capitulons pas ». C'était vraiment un geste d'intellectuel et peut-être prémonitoire. Nous avons écrit, métaphore que j'ai eu du mal à assumer, analogie que j'ai eu du mal à assumer, nous avons parlé du Munich de l'école républicaine.
Je suis coupable de cette formule.
Alors, oui, je me disais, là, il allait trop loin, notre ami Régis, est-ce que je le dénonce, est-ce que je ne le dénonce pas?
Et, comme l'avez-vous fait, j'aurais été en taule une nouvelle fois.
Oui, mais justement, étant donné ce qui se passe, étant donné la force de l'islamo-clientélisme dans certaines villes, dans certaines cités, je me dis, c'était prémonitoire, c'était très fort. En tout cas, c'était un geste intellectuel. Le regrettez-vous, Régis Debray?
Non, pas du tout. Oui, nous avons signé ce manifeste avec
Elisabeth Badinter, Catherine Kinsler et Elisabeth de Fontenay.
Je crois que, au fond, nous avons protesté pour la laïcité, c'est-à-dire pour le fait que la cour de récréation n'est pas la salle de classe. La cour de récréation, c'est ce qu'on appelle la société civile. Les passions, les préjugés, les appartenances. En salle de classe, on abandonne tout ça. En salle de classe, on n'est ni de gauche ni de droite, j'allais dire ni homme ni femme, ni vieux ni jeune. On éduque, c'est-à-dire qu'on sort, les enfants de leur cocon, hein, édulcérés, sortir. On amène les enfants à sortir de chez eux et à s'élever à la condition d'adulte, c'est-à-dire de quelqu'un capable de penser par lui-même. Et je crois qu'on a eu tout à fait raison de faire ça, et on le voit bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'école a été détruite, on peut le dire, ou en tout cas disqualifiée. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue l'esclave de la société extérieure. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où un chef d'établissement doit recevoir un parent d'élève, escorté de son confesseur, en l'occurrence d'un imam, je veux dire, d'un ton récent, n'est-ce pas? Or, un parent d'élève, c'est un oxymore. Un parent d'élève, ça n'existe pas. Les parents font des enfants, très bien, on les en félicite. Mais il y a que le prof qui fait...
Qui élève les, élèves.
Il y a que le prof qui fait des élèves, n'est-ce pas? Et donc, nous avons eu raison, oui, Alain, nous avons eu raison. C'est d'ailleurs, je crois, la dernière pétition que j'ai signée. Mais c'est vrai que nous avions anticipé la destruction de l'école sous ce double étau, d'une part, de la gauche sociétale, hein, c'est-à-dire que il faut que la société bouffe ce qui en principe ne lui appartient pas, et de la droite économiste, il faut que l'école soit une entreprise pour préparer les entreprises. Donc oui, au fond, c'est parfois bon d'être un intellectuel.
Bon, bah, très bien, Régis Debray. j'accepte cette palinodie.
Non, bien sûr que non.
C'est une taquinerie vaine. Mais je voudrais que nous avancions.
Oui.
Parce que l'amour du fer ne vous a pas quitté, mais le fer, vous l'avez trouvé ailleurs que dans la politique comme réalisation de la philosophie. Vous l'avez trouvé, disons, dans les bidules, dans les machins, oui, dans les engins, dans les instruments, bref, dans la technique. Et, Auguste Comte de notre temps, vous avez fondé, rien que ça, une discipline, la médiologie, Régis Debray. Qu'est-ce que c'est?
C'est pas du tout l'étude des masses médias, je vous rassure. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas beaucoup. C'est l'étude de tout ce qui permet, c'est-à-dire des médiations, des intermédiaires, des moyens qui permettent de passer de l'abstrait au concret, de descendre du ciel sur la terre, de passer d'un dire à un faire, toujours, n'est-ce pas? Et ça suppose des médiations. Ces médiations sont techniques, d'abord, et elles sont institutionnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, si vous voulez transmettre quelque chose, il faut d'abord que vous l'inscriviez quelque part, que vous ayez soit un stylo, soit une caméra, soit un micro, c'est-à-dire il y a une technique, et puis aussi il faut qu'il y ait une institution, c'est-à-dire une langue, une académie, je dis ça pour vous saluer au passage, en tout cas une institution. Et donc, Comment on passe de l'abstrait au concret? Pour moi, ça exige effectivement de penser technique. Il y a un mot que je trouve absurde, les idées mènent le monde. Attendez, les idées, elles ont pas de main pour me tirer, elles me poussent pas dans le dos, hein, je veux dire. Comment, qu'est-ce qui se passe pour passer de Voltaire à la prise de la Bastille? Bon, il n'y a pas un Fiat Lux comme ça, c'est pas immédiat. Il y a des médiations, c'est-à-dire, au fond, la médiologie, c'est une réflexion concrète sur l'efficacité symbolique. Le mot, cette force qui va, disait Hugo, oui, mais le mot n'a pas de moteur incorporé. Bon, et donc là, encore une fois, je retrouve mon idée du faire, n'est-ce
voilà,
pas
oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire quand on dit quelque chose? Souvent rien, hein. Et c'est pourquoi je suis passionné de la cause des livres, comme votre ami Mona Ozouf, je salue au passage cet admirable livre, mais les livres qui ne sont cause de rien, bah, ça me semble un peu déficitaire. J'aime qu'un livre soit cause de quelque chose.
Oui, mais et justement, d'ailleurs, vous divisez l'histoire à travers, avec votre médiologie. Il y a différents âges, la logosphère, différentes médiasphères, donc, la logosphère, la graphosphère, la vidéosphère et la numérosphère. Et je dois dire que cette typologie est très, très éclairante. Elle nous a beaucoup appris. Mais, Régis Debray, l'intérêt pour la technique, et vous le reconnaissez vous-même, n'est pas votre seul apanage. Toute une part de la pensée allemande du XXe siècle s'y est consacrée. Vous le savez d'autant mieux que vous rendez souvent hommage à Walter Benjamin.
Ah oui.
Qui est que vous
un parrain de la médiologie.
Ouais, un parrain de la médiologie. Vous parlez moins de Günther Anders et avec un certain agacement de Heidegger. Alors nous allons pas aujourd'hui vider notre querelle sur Heidegger. Ça demanderait une émission d'une journée et je ne suis pas sûr que, en dépit de sa bienveillance à notre endroit, Sandrine Trainer, la directrice de France Culture, veuille nous l'accorder.
Mais nous allons faire une pétition tous les deux
pour l'avoir.
En ce sens.
Très bien. Mais non, simplement une chose, oui, parce que vous dites la technique, elle ne nous gouverne pas complètement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle gouverne nos vies, mais il y a ce que vous appelez l'effet jogging. Mmh. Alors justement, dites-moi ce qu'est l'effet jogging. Et je vous ferai ma réponse heideggerienne.
Bah, l'effet jogging, c'est que plus on avance dans la technique, plus on recule dans la culture pour aller vite. Plus il y a d'autoroutes, plus il y a des chemins de grande randonnée. Plus il y a d'automobiles, plus il y a de trottinettes. C'est-à-dire, si vous voulez, que chaque pas en avant technique et scientifique suscite, comme on le voit très bien aujourd'hui, un pas en arrière, parce que la technique, ça nous dépossède de notre appartenance, de notre singularité, donc ça crée un vide d'appartenance et on réinvente une tradition pour se retrouver quelque part et pas n'importe où. Mais c'est vrai que sur la technique, il va bien nous falloir, disons, une demi-journée pour en parler, parce que ce point aujourd'hui est essentiel.
Absolument, absolument. Mais alors justement, on commence un tout peu. Vous parlez du progrès rétrograde et dans votre livre Introduction à la médiologie, Régis Debray, vous définissez l'effet jogging. Au début du siècle, certains visionnaires avaient pronostiqué que l'usage immodéré de l'automobile par les citadins provoquerait bientôt l'atrophie de leurs membres inférieurs, le bipède motorisé se désaccoutumerait de la marche. Qu'a-t-on vu depuis? Ceci, depuis que les citadins ne marchent plus, ils courent fanatiquement dans les parcs ou à défaut en salle sur tapis roulant. Et moi je vous réponds, et ça c'est la réponse heideggerienne, que le jogging, on en reste là, pas de l'effet jogging en général, mais le jogging, ce n'est pas la réaction salutaire ou dangereuse à la technique, c'est l'apothéose de la technique. Parce que la technique, c'est le monde du fonctionnement, de la programmation. Et le jogging, c'est justement le fait de programmer et de faire fonctionner son corps. Quand vous arpentez un chemin, pour sortir de la route, c'est pour voir le monde. Si vous joguez même dans les bois avec un casque sur les oreilles, avec une montre qui indique vos calories, vos battements de cœur, vous êtes dans un tout autre monde, c'est-à-dire le monde de la planification et du calcul. Et la vie physique elle-même, à l'ère de la technique, n'échappe pas à la planification et au calcul. Voilà ce que Heidegger m'aide à penser. Régis Debray.
Oui, j'entends bien ce que vous dites. Mais j'entends aussi que ce que les outils font à ceux qui les inventent est parfois très pervers. Ça les rend esclaves de leurs outils, souvent, nous sommes d'accord. Mais la différence entre vous et moi, faut bien qu'on en trouve, il y en a d'ailleurs pas mal, mais il y a d'abord celle-ci. C'est que quand Prométhée a voulu monter sur l'Acropole pour voler le secret du gouvernement des hommes, ça n'a pas marché. Hein. Les dieux, ils ont fermé la porte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez le forgeron. Il a trouvé le feu. Avec le feu, on fait aussi bien des épées que des charrues. Autrement dit, on fait tous ces suppléments de bagages qui permettent à un petit animal très désemparé à sa naissance, qui est l'homme, qui lui permettent d'abord de survivre et qui lui permettent de créer, je dirais, une culture, c'est-à-dire un stockage de mémoire. Comme Valéry disait, l'homme n'existe que sur le tas de ce qui dure. Bon, et pour que ça dure, il faut l'inscrire, il faut l'archiver, il faut inventer des bibliothèques notamment. Autrement dit, pour moi, la technique, c'est pas ce qui déshumanise, c'est ce qui a permis l'hominisation. C'est ce qui a permis le passage d'un petit animal sans histoire, car les animaux n'ont pas d'histoire, à cet animal bizarre qui ne s'en tient pas au programme génétique de l'espèce et qui a permis, je dirais, un primate omnivore à station verticale de pas être un mammifère comme les autres. Mais c'est parce que nous avons des outils. Les outils, si vous voulez, ça progresse. Le reste, ça marche pas, ça progresse pas, ça tourne en rond. Donc je trouve que Homo Faber, au moins de son côté, il fait du nouveau.
Oui, très bien, d'accord. Alors là, je vais vous faire une objection, mais non plus heideggerienne, mais médiologique. Je vous propose une enquête médiologique. Donc, les Lumières, c'était l'idée de civilisation. Un mouvement étudié par Benveniste et Starobinsky. C'est-à-dire un mouvement vers plus de civilité, plus de bien-être,
plus de répression des instincts et des,
oui,
et des pulsions.
Plus d'intelligence, plus de technique, plus de liberté. Mmh. Or, là, cet attelage, on le constate, va à U et à Dia. Plus de technique, sans aucun doute. Plus de civilité, tout le monde constate que ce n'est pas vrai. Et c'est très intéressant. Quel rôle joue la technique aujourd'hui dans le processus de décivilisation? Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai pas envie de me lancer dans la sphère publique parce que là règne l'injure. Mais on va sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on voit? Quand, même pour soi-même, quand on a fait une intervention, les gens qui vous critiquent, parce que c'est les réseaux sociaux, parce que c'est Twitter, parce que c'est vraiment la marque de la technique de notre temps, on a les interlocuteurs sont sans visage, l'immédiateté règne, la critique est remplacée par l'injure. C'est absolument le règne de l'injure. Le 18e siècle, c'est le siècle de la critique, le 21e siècle, c'est le siècle de l'injure. Et là, on se demande quel est le rôle que joue la technique, justement, la technique la plus nouvelle, dans cette régression formidable vers le stade de l'injure. Voilà ma contribution à votre science médiologique, Régis Debray.
D'abord, la médiologie n'est pas une science. Hein. Les sciences sociales non plus, je vous rassure, mais vous vous inquiétez. Alors oui, vous avez raison. Il y a une perversion de l'invention technique. Internet, par exemple, au départ, c'était fait pour connecter tout le monde. c'était fait dans un esprit très libertaire et beaucoup ont prophétisé qu'avec Internet, tout le monde serait frère, etc. Non, en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'Internet est une fabrique de niches, est une fabrique, au fond, beaucoup plus de division que d'unification. Alors oui, effectivement, j'ai même envie de vous dire que, pour aller plus loin que vous, que malheureusement, nos technologies de communication nous ont fait oublier la transmission. Parce que la communication, c'est quoi? C'est faire passer une information d'ici à là-bas, c'est maîtriser l'espace. Transmettre, c'est maîtriser le temps. C'est faire qu'il y ait quelque chose demain qui a eu lieu aujourd'hui. Donc, nous oublions la transmission, l'école donc, qui est le lieu de la transmission, et nous sommes plaqués sur la connexion dans l'espace qui nous déconnecte du temps. Et ça, c'est très sérieux. C'est un peu l'état actuel des choses. Hein. Vous avez raison, cet enrichissement technologique peut être un appauvrissement culturel. Donc, nous allons faire peut-être une motion de synthèse pour dire que effectivement l'innovation a manié avec des pincettes.
Bon,
mais l'innovation est irréversible. C'est-à-dire que quand on a inventé la bombe atomique, on ne revient pas avant.
On ne désinvente rien.
On ne désinvente rien. Et comme disait Benjamin, tout ce qui a existé dans le passé mérite de rester chez nous. Bon, c'est vrai. Alors oui, je suis d'accord avec vous que aujourd'hui, nous sommes dans une société qui ne fait que communiquer et qui oublie de transmettre.
Voilà. Donc, si j'étais Dieu, je désinvoterais le portable. Mais je ne suis pas Dieu. Mais justement, ça me fournit, j'y pense, une transition extraordinaire. Parce que, dans vos préoccupations, il y a Régis Debray, le religieux, et plus généralement le phénomène du croire. Nous pensons, à vos yeux naïvement, que nous sommes entrés, notamment nous autres occidentaux, et je cite Marcel Gauchet, dans l'âge de la sortie de la religion. Et vous dites que ce n'est pas aussi simple que cela. Alors, quelle lumière nous apportez-vous sur ce que les Lumières appelaient l'obscurantisme?
D'abord, un constat. La sortie de religion, ça peut exister en France et en Belgique, mais les 4/5 de l'humanité sont en train d'y rentrer. Hein. Tous pratiquent le re. Les États-Unis se réévangélisent, Israël se rejudaïse, l'islam se réislamise, la Thaïlande se rebouddhise, etc., etc. Donc premier constat, pas d'accord avec l'idée d'une nouvelle ère en quelque sorte. Et là, on retrouve notre effet de jogging. Plus on avance, plus on recule, et on fait retour à son identité, à son appartenance. Bon. Et alors, moi, il me semble que les excès de la croyance font beaucoup de mal, c'est certain. Ça s'appelle le fanatisme. Mais l'absence de croyance ne fait pas du bien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être ensemble sans une croyance commune, si vous voulez, sans une communion. Alors, c'est vrai que j'établis une différence entre le spirituel et le religieux. Quand je dis la religion, je dis la communauté, si vous voulez. Un spirituel se prépare à la mort, mais un religieux prépare les obsèques, d'accord? C'est-à-dire qu'il organise un espace-temps, un collectif, avec des voies de pèlerinage, avec des lieux saints, avec un calendrier, avec des rituels. Et ce qui me semble pathétique, c'est qu'on a aujourd'hui refusé l'enseignement du fait religieux à l'école, projet qui a été enterré par tous les gouvernements successifs, et celui-là en particulier, comme si on pouvait défendre la laïcité sans connaître en quelque sorte son adversaire. Si adversaire, il y a. Parce que beaucoup de religieux peuvent être des laïcs convaincus, bien entendu. Enfin, chez les catholiques, en tout cas. Et les protestants, encore plus. Donc, si vous voulez...
Et chez les juifs aussi.
Et chez les juifs aussi. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, On a eu, si vous voulez, le continent noir qui était le sexe, comme disait Freud. Aujourd'hui, le continent noir, c'est le croire. C'est le sacré, disons. Et le grand échec de ma vie, j'en ai eu pas mal, mais le plus grand, c'est n'avoir pas fait comprendre aux laïcs que aussi, nous aussi, nous avons du sacré. Et que le sacré, c'est pas le divin, le sacré, c'est pas le surnaturel, le sacré, c'est ce qui nous fait tenir ensemble.
Oui, mais vous dites justement que le phénomène de la foi ne se réduit pas forcément à ce qu'on appelle communément la religion. Alors c'est pas parce qu'on est irreligieux qu'on est excepté, si j'ose dire, du croire. C'est vrai, Régis Debray. Mais et d'ailleurs, il y a des religions qui n'ont pas de Dieu. Donc, si Dieu est mort, ça ne veut rien dire, dites-vous, pour les bouddhistes,
il y a
par
des,
exemple.
Des religions séculières qui ne sont pas les moins nocives.
Voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui caractérise toutes les religions au sens où on l'entend communément. C'est l'idée que la vie terrestre n'est pas le terme de la vie. C'est quand même ça. Il y a un au-delà. Il y a une autre vie. Alors, ça peut être la métempsychose, ça peut être l'immortalité de l'âme, ça peut être l'éternité du paradis, Dieu qui rappelle à lui ceux qui sont morts. Mais cette phrase, aujourd'hui, qu'on trouve dans certaines notices nécrologiques, on a du mal à y croire. Même ceux qui la professent ont du mal, ont du mal à y croire en Occident. La crise de la foi, c'est ça. On ne croit plus spontanément à l'idée d'une vie au-delà de la vie. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui nous différencie des religions vivantes. Quand les fanatiques de l'islam disent « nous aimons la mort autant que vous aimez la vie », ils disent « nous aimons la mort parce que c'est une antichambre, parce que le martyr va nous faire connaître la vraie vie ». Et il y a des martyrs en Occident, mais c'est des martyrs qui acceptent la mort pour ce qu'elle est, qui se sacrifient en sachant qu'ils vont mourir, ce qui est tout à fait différent. Donc ça fait quand même, si vous voulez, et cette différence ne peut pas être occultée ne peut pas disparaître dans la généralité du croire, me semble-t-il, Régis Debray.
Oui, quand vous croyez, vous attendez. Le croire, c'est le futur. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est sous vos yeux, que vous pouvez toucher, c'est ce qui n'existe pas. Comme disait l'autre, que deviendrions-nous sans ce qui n'existe pas? Mais vous savez, il est vrai que quand on considère que la mort est une porte d'entrée et non une porte de sortie, on devient un combattant redoutable. La mort n'est pas à fuir, elle est à rechercher. Ce qui fait une certaine inégalité des forces dans certains combats aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que le fanatique, c'est celui-là, oui. C'est celui qui sacrifie sa vie d'aujourd'hui et celle des autres à sa vie future. C'est un égoïsme, si vous voulez. C'est un égoïsme futuriste. Une domination de l'imaginaire qui fait dans le réel des tueries invraisemblables. Mais je continue de penser que si vous ne croyez en rien, d'abord vous surestimez les forces du savoir, parce qu'on ne fait pas une société avec de la science, on fait une société avec de l'imaginaire, avec des mythes, avec des récits. Vous allez vous replier sur vous-même, vous allez sécher sur pied. Moi, je pense que là où il y a une communauté d'action et de destin, il y a quelque chose qui nous dépasse. Autrement dit, que on est rassemblé que parce qu'il nous dépasse. Alors, si rien ne nous dépasse, eh ben, chacun s'en va dans son coin, rentre chez lui, et la société n'a plus rien en commun, c'est ce qu'on appelle l'archipel. Pour aller vite. Et je crois que la France est aujourd'hui dans une crise d'incroyance considérable. Alors, incroyance, ça ne veut pas dire qu'elle ne croit pas en Dieu. C'était une croyance parmi d'autres. Après, on a eu la croyance dans le progrès, on a eu la croyance pour la patrie. Je vous rappelle qu'on a des millions de gens sont morts pour la patrie. On a commémoré Maurice Genevoix et à travers lui, des millions de sacrifiés qui croyaient dans un sacré, qui avaient dans leur corps un sacré. Le sacré, c'est ce qui interdit le sacrilège et ce qui légitime le sacrifice. Ben, y a des gens qui ont, non pas envie d'eux, mais qui se sentent tenus de se sacrifier pour quelque chose de plus grand qu'eux. Excusez-moi, je trouve ça bien.
Ah, moi, je serais tout à fait d'accord avec vous. Simplement, je crois qu'il faut faire un certain nombre de distinctions entre les phénomènes du croire et une société où on ne croit plus en rien et où on ne risque rien est une société en danger. Et en l'occurrence pour la France, peut-être une nation en danger. Eh bien, voici le temps de terminer l'émission et je voudrais précisément l'achever sur une citation de vous, Régis Debray, de ce livre d'un siècle l'autre, dont je souhaiterais que sa sagesse soit transmise, là pour le coup, aux générations qui viennent. Il y a bien deux types de sociétés. Celles dans lesquelles un ami qui cesse d'être un camarade devient ipso facto un ennemi, et celle où, camarade ou pas, des amis peuvent toujours déjeuner ensemble. Un je ne sais quoi d'ordre ontologique. Il faudrait, le cas échéant, risquer sa vie pour sauvegarder ce presque rien. Voilà, c'est
pour
fini.
Pour ne pas détruire ce dont la permanence est la raison d'être d'une civilisation. Je précise tout de suite, c'est du Valéry.
Très bien.
Et là, je pense que nous sommes d'accord.
Absolument. Je rappelle le titre de votre livre, D'un siècle l'autre, publié aux éditions Gallimard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Paul Morand, L'homme et l'œuvre. Mes invités seront Pauline Dreyfus et Marc Lambron. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et de Doria Zénine. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.